les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Léon Bonnat, ses amis et élèves dans la vie de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Voici l'intervention d'Étienne Rousseau Van Plotto, professeur d'histoire, auteur, organiste, membre de la SSLA. Léon Bonnat, ses amis et élèves dans la vie de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne.
Oui, bonjour. Alors au moment de cet anniversaire du 150e, donc de l'existence de notre société, comme je travaillais sur Léon Bonnat, puisque j'ai composé un livre qui est en fait un roman historique sur les 50 premières années de sa vie, j'ai eu envie de creuser un peu ces liens avec de ce Bayonnais qui se dit vraiment Bayonnais avec notre société. En réalité, j'étais un petit peu déçu justement par ces liens parce que c'est un Parisien, il vient au Pays Basque, mais c'est avant tout un Parisien et il est honoré beaucoup par la société. Et cela m'a conduit en fait à étudier son environnement, ses amis, puisqu'il a passé son enfance, ses 13 premières années de sa vie ici à Bayonne. Donc il connaissait une très grande partie des notables et des personnes qui ont fondé et animé la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Vous allez en découvrir quelques-uns, certains sont absolument inconnus ou presque, et ce sera l'occasion justement d'approfondir la connaissance de cette société qui a changé plusieurs fois de nom, comme vous l'aviez vu dans la première diapositive d'Olivier Ripton, mais systématiquement, moi je parlerai de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, parce que je ne fais pas l'historique de la société exactement, il y a eu même des scissions à certaines périodes, les gens ont démissionné, c'est assez intéressant à étudier aussi, peut-être de façon plus approfondie. Alors sur cette première diapositive, je vous avais mis aussi le célèbre triptyque qui orne depuis 1995 le patio du musée Bonnat, qui est en place en ce moment et qui restera dans le musée Bonnat restauré, où l'on voit Bonnat au centre, ici. Voilà, enfin je vais faire avec la souris en fait. Donc vous avez Léon Bonnat ici, toute une vue sur Bayonne depuis la citadelle, et ses élèves basques et béarnais, dont une grande partie, vous allez le voir, ont fait partie de la société. Mais là aussi, une sorte de petite déception, c'est qu'ils n'ont pas énormément agi au cœur de la société. Ils appartenaient, mais ils n'ont pas souvent travaillé pour elle. En fait, cette société s'appelait Sciences et Arts, mais la conclusion de mon petit exposé, ce sera que finalement, l'art n'a jamais été très, très mis en avant par la société. Et quant aux sciences elles-mêmes, elles ont peu à peu été remplacées par la science historique essentiellement, par l'architecture. Et alors que pendant à peu près un siècle, les sciences dures, on pourrait dire, biologie, pharmacie, donnaient lieu à des conférences, à des exposés et à des articles dans le bulletin. Ma source étant essentiellement le bulletin des amis du musée basque, le bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, qui est une source extraordinaire, une mine extraordinaire de renseignements sur la vie de Bayonne et la vie tout court de la société sociale, si je puis dire, depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Alors je commencerai donc par Bonnat lui-même. Vous voyez ici un portrait de 1867, ce sont des fameuses photos cartes de visite, dans le moment où, à la fin du Second Empire, Léon Bonnat est déjà un personnage très connu, apprécié, remarqué. Vous savez qu'il a eu la particularité de passer son enfance à Bayonne, mais à l'âge de 13 ans, son père est ruiné et donc il part à Madrid. Et il est en réalité formé dans les trois grandes villes artistiques d'Europe. Ça, c'est une particularité. Il est d'abord formé à l'Académie San Fernando de Madrid, puis ensuite à l'École des Beaux-Arts de Paris, et ayant raté le prix de manquer d'avoir le premier prix de Rome, il préfère partir à Rome pour pouvoir préparer des tableaux de salon. Et dans le courrier de Bayonne, vous voyez, cette archive nous montre qu'en 1858, on s'intéresse à lui parce que à Madrid, on lui avait proposé de devenir espagnol pour financer ses études à Rome. Et il a refusé, étant et patriote français et patriote bayonnais aussi, puisqu'il disait « je ne suis ni basque, ni béarnais, ni gascon, je suis bayonnais ». Une identité assez étonnante pour une famille, de toute façon, qui était, comme beaucoup de notables d'ici, originaire de Lyon ou de l'Isère. Il y a beaucoup de travaux à faire sur ces mélanges de sociétés. Son père était d'ailleurs né à Madrid. On se souvient que quand il est né en 1833, on est relativement peu de temps après les guerres de la Révolution française, l'occupation de l'Espagne ou autre. Et voilà. Quand il part, donc, pourquoi sa reconnaissance envers Bayonne? Vous le savez, c'est parce que la ville lui a offert donc de payer ses études à Rome par une bourse. C'était d'ailleurs très très courant que les villes donnent des bourses dans toute l'Europe pour des artistes. Mais il y a aussi un autre personnage qui joue un rôle important dans la vie de Bonnat. C'est Monsieur Jean-Antoine Persona, monsieur devenu très riche et qui a construit d'ailleurs un immeuble près du musée Bonnat, et dont il fait le portrait en 1963. On peut dire que c'est un peu son père, puisqu'il est orphelin très tôt. C'est une sorte de père de remplacement et qui lui donne beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour qu'il puisse continuer ses études. Le voilà au moment de la fondation de la société, on est en 1873, il n'en fait pas partie. Il n'est pas dans les fondateurs du tout de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, mais il est toujours là, après la Commune et le début de la Première République, de la Troisième République. Il est toujours important à Paris surtout, mais on suit à Bayonne tout ce qu'il fait. Et des articles du bulletin nous parlent de ses dons. Il fait des dons au musée municipal de Bayonne très tôt, comme par exemple le tableau de son prix de Rome manqué, c'est-à-dire quand il a eu le deuxième prix de Rome, que vous verrez au musée Bonnat, ou encore une esquisse pour des tableaux qui sont prévus pour le palais de justice de Paris. Il y en a eu d'ailleurs deux manières, puisque le palais de justice a brûlé pendant la Commune. Donc ça, ce sont des dons qui sont faits à Bayonne de sa part. Il offre aussi des œuvres d'autres peintres. Par exemple, ici, dans la société d'être, un certain Durst, qui est un peintre qui a un petit peu disparu, mais dont parle le bulletin sous la plume d'Henri Durand, dont je vous parlerai plus tard, qui était un président très amateur d'art et lui-même artiste. D'autres tableaux offerts par Léon Bonnat en 1885, c'est le moment où il commence à être très riche, où il commence sa collection en achetant un petit dessin de rien de Michel-Ange, 15 000 francs or. C'est le moment où il est très riche et il devient collectionneur. Et il fait bénéficier de plus en plus sa ville natale en reconnaissance des parties de sa collection. Donc ici, je n'ai pas trouvé le tableau, une esquisse de paysage de Daubigny, qui n'est plus un peintre très connu, ou encore, contrairement à son père, portrait d'Anatole de la Forge par Gustave Richard, un élève de Cogné comme Bonnat. On trouve d'ailleurs dans tout cet entourage beaucoup, beaucoup d'élèves de Cogné, qui était le meilleur préparateur du prix de Rome. Et plus intéressant encore, dans les articles de la société, on voit le don par Bonnat d'un tableau de Géricault, donc qui sera exposé au musée Rouvert, au musée Bonnat, offert en 1888. Voilà une tête d'Eugène Négresse, l'auteur de l'article spécifiant qu'à cette époque, il est très rare d'avoir des Géricault dans les musées de province. Et on voit donc peu à peu comment le musée municipal qui devient le musée Bonnat a des collections assez exceptionnelles dès cette époque. Un autre article nous parle du don d'un tableau de Léopold Durangel, un habit de Bonnat, qui offre Consomption. Je n'ai jamais vu ce tableau, il n'a jamais été exposé à mon souvenir dans le musée Bonnat, mais j'ai trouvé une carte postale et peut-être qu'on le ressortira au cours d'expositions temporaires, d'autant que le musée Bonnat possède un assez étonnant dessin de ce Durangel montrant Bonnat dans son nouvel hôtel particulier de 1883, au moment où il a fait vraiment, il devient un phare pour la peinture française, il participe à des congrès partout, et il revient quand même souvent au Pays Basque, en particulier à Saint-Jean-de-Luz, tous les étés, puisqu'il y a acquis une maison, où il avait un atelier aussi, où il peignait, et il reste quand même tout le temps en lien avec avec les notables et les personnes de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Voilà, ça c'est un portrait, un autoportrait de Bonnat, il y en a beaucoup. Celui-là est semblable à celui qui est dans la galerie des autoportraits de Florence, mais celui-là est aux États-Unis. Vous voyez cet homme. Et le grand cadeau qu'il fait à la ville de Bayonne donne lieu à un très important article en 1887 du tableau de l'Assomption de la Vierge Marie destiné à la nouvelle église Saint-André. Et il vient en 1887 d'ailleurs restaurer, on fait un échafaudage et changer la tête de la Vierge qui ne satisfaisait pas complètement. Cette église Saint-André qui est à restaurer aujourd'hui d'ailleurs, elle a des problèmes de conservation, elle a de très beaux tableaux, dont celui-là qui est marqué dans tous les guides dès l'époque. Et la Société des sciences et lettres des années 80, vous allez le voir, elle s'intéresse beaucoup à l'art et à ce qui est donné. Il ne devient membre de la Société des sciences et lettres qu'en 1893, présenté par un certain Émile Ragon et surtout par sans doute un condisciple, Ferdinand Corrège, qui est un peintre et dessinateur, qui publiait d'ailleurs beaucoup de lithographies dans le bulletin de la Société Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. Vous voyez que les photos que je vous montre, c'est en général à Paris, à part ça qui est à Bayonne. C'est plutôt notre Bonnat parisien, mais qui est en lien vraiment avec la société. Et puis, Olivier Repton nous a parlé de la fête de la tradition basque de Saint-Jean-de-Luz. Alors là, il joue un grand rôle. Il est patronné pour ça par son ami Arnaud Détroya, dont je vais vous parler peu après. Il y a une exposition de peinture, il fait des discours. Et vous voyez, ce casino qui a disparu à Saint-Jean-de-Luz appartenait à son grand ami Arnaud Détroya, qui en avait fait don à la ville, très gentiment, hein, où il y a eu beaucoup d'expositions d'ailleurs. Alors c'est à lire aussi dans le bulletin de la société, tout le compte-rendu de cette fête, minute par minute, avec tous les discours. C'est fort intéressant de voir ces notables, puisque ce sont essentiellement des notables qui s'occupent de la société, se pencher sur la culture basque, bien avant quand même l'ouverture du musée basque lui-même. C'est les années aussi où on a commencé à construire le musée basque lui-même, en 1895-98. Comment ? J'ai dit musée basque, excusez-moi, parce que j'ai ça, une confusion qui arrive de temps en temps. Bayonne a deux musées extraordinaires. Donc le musée Bonnat est en construction. Et Antonin Persona, un autre des amis dont je vais vous parler rapidement, en 23, évoque le Bayonne de sa jeunesse. Il commente avec humour les souvenirs de la comtesse d'Aunoy. Il évoque Théophile Gautier. Et aussi, il évoque son maître et ami Bonnat, à propos de la lenteur des architectes. Alors, en réalité, je ne sais pas si c'est sur le musée Bonnat ou sur l'hôtel particulier de Paris, qui a disparu aujourd'hui. La société le félicite, évidemment, quand il a des récompenses, comme par exemple pour le grand cordon de la Légion d'honneur. Hein, on lit une lettre de félicitations le 15 janvier 1901. On applaudit beaucoup Bonnat, qui n'est pas beaucoup là, mais qui est une sorte d'ombre tutélaire, ce qui est dit souvent. Et en 1922, donc M. Antonin Persona, vice-président, expose que M. Léon Bonnat a fait un important envoi au musée de Bayonne de tableaux de son pinceau, de dessins de tableaux de sa collection, Léonard de Vinci, Raphaël, Durer, Michel-Ange évidemment, mais aussi toutes les époques de la peinture classique depuis la Renaissance, et c'est ça les dons. Ils comprennent nombre de toiles et de pièces de haute valeur artistique et augmentent considérablement les belles collections du musée Bonnat. M. Persona et M. Bergès, hein, qui était à ce moment-là, après Pasco, le conservateur du musée Bonnat, président à l'installation de ces merveilles, se feront un plaisir de les faire admirer prochainement aux membres de la société, car la société organise aussi des sorties, des visites et beaucoup, beaucoup de conférences tout le temps. Ça, c'est l'aspect du musée Bonnat qui n'aurait normalement jamais dû être transformé. Le testament spécifiait que la collection aurait dû rester dans cet état-là, comme les collections de Chantilly, du duc d'Aumale, qui ont été installés en partie par Léon Bonnat, le grand ami du duc d'Aumale. Mais, au moment de la mort de Bonnat, il y a donc des articles, surtout d'Antoine Persona, une nécrologie fort intéressante, et aussi un article qui montre le premier dessin qui était dans la collection Persona, et aujourd'hui on ne sait pas où il est, le tout premier dessin fait par Bonnat de l'église Saint-Étienne, encore en assez mauvais état après les guerres de... C'était 30 ans après les guerres de Napoléon, des batailles, et le cimetière où il y a toute la famille Bonnat, où Bonnat est enterré lui-même, la plupart de ses amis, de ses élèves. Voilà. En 1923, le président n'a pas manqué de rendre hommage à Bonnat, puisqu'il est mort donc en septembre 1922. Le bulletin en parle un petit peu, et il y a surtout cette magnifique nécrologie qui a servi longtemps de base aux premières études sur le peintre, nécrologie, rédigée par Antonin Persona, avec le fameux, ça c'est dans le bulletin, j'ai photocopié le bulletin, avec ce fameux portrait un peu austère, autoportrait de Bonnat, dont moi j'ai un exemplaire dédié aux enfants de Bayonne. Il a été distribué partout, cet autoportrait. Mais, surprise, en 1933, en fait, il n'y a quasiment aucune allusion dans la société des grandes fêtes du centenaire de Bonnat qui ont donné lieu à la couverture de l'illustration, rien de moins. Donc c'est en juin 1933, on fête Bonnat dans toute la France, et évidemment particulièrement à Bayonne, là vous êtes devant la mairie, il y a aussi l'érection d'une statue sur la place de la mairie. Voilà, donc vous voyez, c'est assez ténu hein, ce que l'on trouve entre Bonnat et la société. Disons que Bonnat est loin, mais il est au-dessus de quelque chose, et on l'évoque souvent parce qu'il fait des dons, parce qu'il est un personnage, il représente quelque part Bayonne dans le monde de l'art. Pour les amis de Bonnat, je vais vous en montrer quelques-uns. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup dans les adhérents et les personnes qui sont admises dans la société, car il fallait d'abord... au XIXe siècle et début XXe siècle, il fallait être présenté à la société, et ensuite il y avait une élection pour chaque membre de la société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Voilà, je commencerai par quelqu'un qui n'a pas fait partie de la société, mais qui a été très important, que connaissait bien Bonnat, M. Ulysse Darac. Donc ça, presque tous sont des portraits par Bonnat. M. Ulysse Darac était un pharmacien qui faisait partie de la Société Philomatique de Bordeaux, qui a légué à la ville une extraordinaire collection naturaliste, d'oiseaux empaillés, toutes sortes d'autres choses. Et il est mort un an avant la fondation de la Société, mais je vais vous montrer une archive totalement inédite. Donc je suis très content d'avoir découvert au château de Castanche, où Jean-Joseph Ader, était donc un écrivain de théâtre important à Paris, mais originaire de Bassussari. Il a reçu ce courrier en novembre 1850, où des personnes proposent la fondation d'une société sciences, lettres et arts de Bayonne. On est en 1850, c'est-à-dire 23 ans avant la fondation réelle de la société. Et dedans, justement, on y trouve Ulysse Darac, ce pharmacien qui n'a pas pu voir la société puisqu'il est mort un an avant. Voilà, il faudra peut-être creuser l'histoire avant la fondation de la société. Alors, je vous montre quelques-uns des amis qui sont tous adhérents et qui font des communications dans les séances de la société, comme par exemple les Poidenot, banquiers importants, négociants, banquiers. Ils étaient apparentés d'ailleurs au Détroya, comme ici Paul Poidenot, qui avait lui-même des Bonnat dans ses collections que nous trouvons aujourd'hui au musée, cette magnifique italienne hein, ici, ou encore bien sûr Jules Labatte, grand bienfaiteur de la ville, qui a été très proche en fait de Bonnat. Voilà, donc Jules Labatte a été maire puis député et qui faisait partie évidemment de la société sciences lettraires de Bayonne en 1901. Son épouse Gabrielle, elle fait pas partie de la société, mais par contre son propre frère Alexandre de Lara du Stégui est un personnage important de la société. C'est lui qui possédait le château d'Urtubie et qui était immensément riche. Il a été maire de Biarritz aussi. On le voit cité dans les séances de la société. Ou encore toute la famille des Trouillats, donc des banquiers, négociants, des deux parties de la frontière du Pays Basque, comme ici Achille des Trouillats, ou encore la famille Molinier. On n'a pas le portrait de Monsieur Molinier, mais on a le portrait de sa femme, qui est particulièrement beau. Hein. On est à Bayonne, vous voyez, là, au début de la société, en 1872. Très, très beau portrait. Cette personne était originaire du Mexique. Ou encore, là, c'est proche de la famille de Bonnat, Ernest Lafont, un médecin, vous voyez, chirurgien de l'hôpital de Bayonne. Donc admis à la société en 1892, personnage tout à fait intéressant, sa vie est très intéressante. Hein. Il était républicain, progressiste et tout à fait apparenté à Bonnat. Ou encore, je n'ai pas mis de portrait parce que je n'avais pas de bien, le fameux monsieur de Urquijo, qui a construit cette magnifique maison à Saint-Jean-de-Luz et qui était très investi, c'est un industriel de Bilbao, très investi dans la vie culturelle du Pays Basque et celle de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Bonnat le connaissait, j'en ai des preuves par diverses, mais je vais avancer parce que il faut que je avance. Parce que je vais vous parler surtout de Arnaud des Troyes, donc le grand ami intime depuis l'enfance de Léon Bonnat. Ils ont entretenu une correspondance entre 1840 et la mort d'Arnaud des Troyes en 1911. Voilà son portrait qui est toujours dans la famille des Troyes. Donc, ami et confident de Léon Bonnat, banquier. Il possédait le casino de Saint-Jean-de-Luz. Il avait une immense bibliothèque qui est très célèbre puisqu'il en a fait don à plusieurs institutions. Il était aussi assez dilettante. Membres de cette famille, il y en a beaucoup, des descendants m'ont dit que quand même considéré comme quelqu'un qui dépensait beaucoup plus qu'il ne gagnait, contrairement à ses ancêtres. Mais on le voit tout le temps dans la société. Il a été un fondateur de la Société des sciences lettraires de Bayonne. On le voit citer tout le temps. Il s'intéresse à toutes sortes de choses dans la science, dans l'histoire, dans les arts. Il était personnage presque un peu extravagant, je pense qu'il mériterait une biographie, en fait. Et vous voyez, par exemple, il publie « Fondation de Bayonne par Astyanax », il publie des dossiers qu'il y a dans la bibliothèque de Bayonne, comme un recueil de ballets, il fait des choses archéologiques, il avait aussi une collection de pierres préhistoriques qu'il a léguées au musée Bonnat, ou basque, je ne sais plus. Et il y a même un coquillage qui lui est dédicacé par le premier président de notre société, qui s'appelait Léopold de Follin, qui appelle un coquillage Clausilia Arnaldi en odeur d'Ardo des Troyes. C'est des détails, mais qui nous montrent une société foisonnante, qui cherche beaucoup. Sa nécrologie est très développée dans le bulletin. Autre personnage vraiment très important, alors beaucoup plus tard, puisqu'il avait 20 ans de moins que Bonnat, c'est Antonin Persona, qui est un des plus grands collectionneurs d'impressionnistes français. Vous verrez beaucoup de ses tableaux à Orsay, comme ici un Monet. Donc tous ces gens-là, assez curieusement, sont nés rue Pontmaillou, à Bayonne, hein, rue Victor Hugo d'aujourd'hui. Il faisait partie de grandes associations, mais il était fidèle à sa ville de Bayonne. Lui aussi, c'est un personnage qui mérite une biographie parce que son argent, il l'utilisait pour l'art. Hein, et c'est lui qui a été l'exécuteur testamentaire de Bonnat pour l'installation des œuvres. Voilà, c'est lui, par exemple, qui fait le discours lors de l'inauguration de la statue de Bonnat. Il a été président, vice-président de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Je cite Persona. Un personnage à découvrir dans les gens amateurs ou élèves, c'est Henri Durand, dont on a encore très peu entendu parler. Président de 1883 à 1991. Là, il est dessiné par son professeur, Philippe Joliet, que Bonnat avait mis à l'école de dessin de Bayonne et ensuite conservateur des collections municipales, Philippe Joliet. Mais Henri Durand, un douanier, a eu un rôle vraiment très important à la fin du XIXe siècle. C'est lui qui fait tous les articles sur Bonnat. Il habitait rue Bourgneuf, donc je pense qu'il a assisté à la restauration de l'Assomption de Bayonne. On voit aussi qu'il cite dans certains articles Sobès ou encore un certain Edouin Javance, voilà l'Assomption, dont il dit tous les détails sur cette œuvre majeure de Bonnat. Et pour moi qui suis organiste de Saint-André de Bayonne, la fameuse église, j'ai été absolument ravi d'étudier cette personnalité parce qu'en 1902, on a changé le système de l'orgue de Saint-André et je voyais toujours écrit « don de Madame Durand » avec un T. Et je suis certain que c'est la veuve de ce monsieur puisqu'il était très investi dans cette paroisse Saint-André. Voilà, j'ai enfin découvert qui était Madame Durand grâce à notre petite communication. Quant aux élèves, je vais être très rapide puisqu'on me dit que mon temps est quasiment imparti. Il y a les élèves, je vous ai dit qu'en fait, ils ne sont pas très très présents dans la société, mais ils sont cités et la plupart d'entre eux ont appartenu à la Société des sciences lettres et arts de Bayonne. Donc Philippe Joliet n'est pas un élève, mais un ami de Bonnat. Voilà un de ses plus célèbres tableaux au musée Basque, mais il y en a aussi au musée Bonnat. Voilà un de ses tableaux qui représente le général Hervé, lui aussi membre de la Société des sciences lettres et arts de Bayonne. Achille Zo, qui est un ami de Bonnat et qui a fini sa vie à Bordeaux, commence à donner des tableaux pour les musées. C'est tout à fait la seconde moitié du 19e siècle, ou encore bien sûr Bergès. Lui, il a joué un rôle assez important à partir de 1918, et donc il fait des visites. Bergès, qui habitait à ce moment-là déjà sa villa Triana, à Anglet, où il est mort d'ailleurs, quand il reçoit la Légion d'honneur, il est félicité par la société. Toujours en 1918, Etcheverry, ça ce sont des peintres qui étaient déjà très établis quand ils rentrent dans la société. C'est un autoportrait de 1918 de Etcheverry quand il rentre. Lui aussi, on le félicite beaucoup pour son rôle dans les jurys des salons. Voilà un de ses tableaux de la même époque. Ou encore, alors c'est plus intéressant encore, Marie Garay, parce qu'il y a des femmes dans cette société. Et Marie Garay, en 1920, elle rentre dans la société. Voilà son célèbre tableau où elle s'est représentée suivant le cours de Bonnat avec tous les élèves qui sont là, et Achille Zo en portrait puisqu'il était décédé. C'est un personnage très attachant, mais son propre frère, un prêtre, le frère de Marie Garay, qu'elle a peint, ce tableau vient de rentrer dans les collections du musée Bonnat. Il était déjà dans la société 18 ans avant sa sœur. Dans la société, donc il fait partie de ces ecclésiastiques qui ont eu un rôle si important dans la société. Ou encore ici, Henri Zo, Camille Julian propose qu'on achète une tapisserie sur le Pays Basque à son sujet. Voilà, elle est au musée, pas la tapisserie, mais le carton est au musée basque aujourd'hui. Et puis, on avait parlé tout à l'heure avec Olivier Repton de Eugène Pascot, qui bizarrement démissionne en 1930. Voilà, je passe un peu, vous lirez ça dans les actes du colloque, parce que je vais développer un peu plus. Et pour terminer, je dirais que c'est surtout après les années 50 que, tout à coup, grâce à un sous-bibliothécaire de Bayonne, qui s'appelait Henri Jean-Pierre, il a écrit énormément d'articles sur les artistes et toute une série qui concerne Ebona et les élèves. Et ça donne ça, 1967, Achille Zo, sa vie, son œuvre. 1968, Denis Etcheverry, peintre de la Belle Époque. 1970, Georges Bergès, peintre du Bonheur. 1972, Henri Zo, peintre de la Fête. 1974, Eugène Pascot, peintre Véris. 1976, Achille Zo, l'éducateur. Ce sont vraiment les sources les plus importantes au départ sur ces peintres. Alors, il n'a rien fait sur Philippe Joliet, il n'a rien fait sur Gabriel Roby, et il n'a rien fait sur Marie Garay. Il a fallu attendre 1996 pour que la société publie un énorme dossier, le premier, très important, sur le peintre Marie Garay, rédigé par Gilbert Desport. Et c'est la base des sources sur ce peintre vraiment important qui est Marie Garay. Je vous remercie de votre attention.
Léon Bonnat, ses amis et élèves dans la vie de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Vous venez d'entendre Étienne Rousseau von Plotto, professeur d'histoire, auteur, organiste, membre de la SSLA. Voici à présent l'intervention de Michel Faure, ancien professeur, également membre de la SSLA. Les horizons de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne entre 1973 et 2023. Michel Faure.
Donc je vais abandonner bien sûr les horizons artistiques pour quelque chose de beaucoup plus austère. Donc c'est les horizons de la Société savante, la Société des sciences, lettres et arts à Bayonne de 1973 à 2022. En 2003, Madame Ponté, donc présidente de la société, avait souhaité, donc elle vous l'a évoqué tout à l'heure, se poser la question des sociétés savantes dans la vie culturelle de la cité. Donc, avec l'amiral Dambier, secrétaire général à l'époque, ils avaient dressé un portrait de notre société dans cette perspective. Mon propos, c'est de reprendre cette investigation en m'interrogeant sur les sujets abordés dans les bulletins de la société, de 1973 à 2022, c'est-à-dire sur le dernier, les derniers 50 ans. Bulletin de la société, donc, au total 48 bulletins, plus de 18 000 pages, près de 17 500 pages d'articles, et donc une fréquence annuelle, des bulletins d'une part classiques, des interventions variées qui peuvent aborder toutes les, tous les sujets, et des bulletins qui sont aussi, pour certains, des bulletins thématiques, ce thème occupant soit une partie, soit la totalité de, du bulletin. Le premier étant le numéro spécial du centenaire que je vous ai montré tout à l'heure et que Mme Ponté a évoqué initialement. Dans cette masse documentaire, mon travail a été de repérer dans le temps, dans l'espace, les sujets que traite la SSLA. Alors, pour cela, j'ai procédé d'une part par une prise en compte globale de ces questions, et puis ensuite par une prise en compte donc chronologique en faisant, en essayant de voir un peu dans la diachronie ce qui concernait ces sujets. Pour quantifier, j'ai utilisé une méthode qui est simple et qui est approximative. En effet, je me suis contenté de compter le nombre d'articles consacrés à tel ou tel sujet, de manière à arriver à quelque chose qui serait quantifiable, mais en étant bien conscient que c'est une quantification approximative. Si on devait tenir compte du volume, les résultats seraient différents. Voilà donc pour ce projet. De 1973 à 2022, comment la société se situe-t-elle dans le temps, du moins explore-t-elle le temps, l'espace ? Une exploration temporelle resserrée. Voilà le total donc des articles concernant les diverses périodes. Alors j'ai pris bien sûr comme classification les périodes historiques classiques, préhistoire, proto-histoire, antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, contemporaine. Temps long, c'est quand on est à cheval sur plusieurs périodes. Et hors histoire, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais qui était important et qui est resté important pendant un certain temps. Tout ce qui concerne les sciences, tout ce qui concerne la géographie, la géologie, et toute une série de ou des interventions qui concernent uniquement le présent. Donc voilà pour ceci. Alors que dire ? D'une part, bien sûr, la faible présence des périodes anciennes, l'écrasante domination de la période moderne et contemporaine, quasiment 75% du total. Et donc, une vue de l'histoire qui est une vue de l'histoire relativement resserrée du XVe siècle à nos jours, avec une prédominance de la période qui succède à la Révolution française. Deuxième possibilité, donc, l'espace géographique. Un espace géographique qui est centré fortement. Bayonne d'abord. 35% des articles concernent Bayonne. Ce n'est pas surprenant. Pour ce qui concerne le Pays basque, alors j'avais essayé de distinguer Biarritz, Saint-Genis-Lucibourg, Anglette et la périphérie de Bayonne par rapport au Pays basque, qu'on pourrait qualifier de plus rural, plus classique. Bon, ce n'est pas très parlant. Les parties urbaines ou périurbaines de ce Pays basque sont relativement peu représentées. C'est le Pays basque en tant que tel qui s'impose. Donc, le Pays basque, 25% pour la télévision traditionnelle, quelques compléments. Peu de présence, par contre, de la périphérie proche, Béarn Land. De même, peu d'importance de ce qui est le cadre que je qualifierais de cadre institutionnel, les Pyrénées-Atlantiques, le diocèse. Hein, il est rare que des articles se réfèrent à ces circonscriptions géographiques. Deux points qu'il faut préciser, frontières-océan. Alors, frontières, ce sont les relations, soit les relations belliqueuses, soit les relations diplomatiques, l'océan, la pêche, le commerce et les corsaires en particulier. Enfin, dernière remarque, les domaines qui sont plus lointains sont relativement représentés, l'Aquitaine, et surtout ce que j'ai appelé « autre », c'est-à-dire tout le reste du monde. Hein, donc, dans cet ensemble, donc, présentation, vous voyez, qui est une présentation, si on fait le bilan. La Société des sciences et lettres et arts s'intéresse à l'histoire, qui est d'abord l'histoire récente. Deuxièmement, elle s'intéresse à un environnement qui est un environnement très proche, mais qui peut s'ouvrir sur d'autres horizons. À partir de cela, j'ai effectué un comptage qui est un comptage chronologique. Un comptage chronologique, alors par décennie, l'horizon historique des bulletins, donc par décennie, donc 1973-82, 83-92, jusqu'à 2022. Et même chose pour ce qui concerne l'espace géographique. Cette étude donc chronologique permet de dégager quelques enseignements. D'une part, on a affaire à une temporalité resserrée. Donc vous avez ici la représentation des diverses périodes concernées par le bulletin, de 1973 à 2022. Ce que l'on peut constater, tout d'abord, c'est que la partie moderne contemporaine est toujours dominante, quelles que soient les décennies, avec une prédominance pour la période contemporaine, un relatif rééquilibrage dans la période récente, lié au changement de président de la société, éventuellement, et aussi, surtout, lié à l'arrêt de l'activité de Pierre Ourmat, qui est un gros contributeur de ces années-là, que j'aurai l'occasion de retrouver par la suite. Deuxième élément. L'effacement quasi complet des périodes anciennes. Si la préhistoire, la protohistoire et le Moyen-Âge ont été, l'Antiquité et le Moyen-Âge ont été peu représentés tout au long de ces 50 années, l'effacement des deux premières périodes et l'amoindrissement du Moyen-Âge sont significatifs. Un élément tout à fait simple d'explication, c'est l'arrêt des publications du général Gödel. Dans les années 70, dans les années 80, le général Gödel explore de manière systématique les enceintes proto-historiques du Pays Basque, ainsi que d'ailleurs que les redoutes napoléoniennes. Quand il arrête de publier, ces domaines-là tombent en déshérence. Symétriquement, on constate un effacement très sévère de ce qui est hors histoire, donc ce qui concerne les sciences, ce qui concerne le présent, ce qui concerne la géographie, la géologie. Hein, l'amiral Dambier s'en émouvait il y a déjà 20 ans. Il a essayé bien seul, de continuer cette présentation en proposant des articles qui étaient des articles à dominante scientifique, mais il était très isolé dans ce domaine. En ce qui concerne les évolutions géographiques, le phénomène est un peu plus contrasté. Dans le bilan de 2003, l'amiral Dambier se plaignait de la réduction notable de tout ce qui n'était pas local. Effectivement, si vous regardiez diverses données, et en particulier la décennie 90-2002, on constate que tout ce qui n'est pas Bayonne, Pays Basque et les éléments intérieurs du Pays Basque occupe une place qui est une place beaucoup moins importante que dans la période initiale. Hein, et ceci donc est assez significatif. Les Bayonne, le Pays Basque, occupent toujours, quelles que soient les décennies observées, les deux tiers, au moins les deux tiers des articles du bulletin, avec toutefois une exception qui est la 2003-2012, dont j'aurai l'occasion de reparler dans un instant. Ce qui est par contre à remarquer, c'est dans les deux dernières décennies, depuis le début du XXIe siècle, la présence grandissante d'articles consacrés aux espaces lointains, avec une surévaluation du phénomène, parce qu'à certains moments, certains articles sont des résumés d'interventions, de conférences, et leur importance en volume est relativement réduite, mais il n'empêche que l'on assiste à un développement, une réapparition de ces espaces plus ou moins lointains. Donc, ici, un contenu du bulletin dont les évolutions nous posent des questions. Et ce sera la suite de ma réflexion. Donc, dans un monde culturel en mutation, comment se comporte une société savante telle que la SSLA ? Dans l'évolution des sujets qu'abordent les bulletins, se trouve, d'une part, bien sûr, l'aléa. Je vous l'ai dit tout à l'heure à propos du général Gaudel, on pourrait le redire à propos de Pierre Ourmat, l'arrêt de contribution d'un des auteurs entraîne souvent la déshérence des questions qu'il évoquait jusque-là. Voilà ceci. Deuxièmement, bien sûr, ces trajets individuels s'inscrivent dans un environnement culturel profondément modifié. Tout d'abord, la montée de l'exigence scientifique dans tous les domaines et son corollaire, la parcellisation du savoir, savoir qui en résulte. Associé à ce phénomène, on pourrait évoquer la mutation de l'honnête homme, au sens classique du terme, 18e, 20e siècle, un individu doté d'une culture littéraire scientifique globale, qui utilise ses loisirs à explorer un ou plusieurs domaines de prédilection, s'il souhaite partager son savoir ou son expérience, la société savante est, à l'échelle locale, un instrument privilégié. Aujourd'hui, on observe à la fois la difficulté à se confronter à l'exigence que requiert toute recherche. L'archéologie avec son développement technicien, en constitue un exemple tout particulier. Par ailleurs, les domaines d'affirmation des esprits curieux de notre 21e siècle se sont énormément diversifiés. L'honnête homme de 2020 a peu de choses à voir avec ce qu'il représentait en 1900. Cette évolution met en question le fonctionnement des sociétés savantes et la SSLA représente un exemple. Donc, entre le XXe et le XXIe siècle, la SSLA a été amenée à s'adapter. Dans les années 70-80, Pierre Hourmat, président de la SSLA, est le chef d'orchestre d'un système à son apogée qui nourrit les bulletins de la société. Apports universitaires nombreux, nourris à l'occasion de colloques, Roncevaux, le 4e centenaire du détournement de la Dour, retombées de grandes thèses locales, la thèse de Josette Ponté sur Bayonne à l'époque moderne, celle de Pierre Laborde sur, en géographie sur l'agglomération de la côte basque, et ensuite la présence d'un ensemble de danses de contributeurs locaux qui viennent nourrir dans divers domaines les pages du bulletin. Nous en avons eu quelques exemples dans l'exposé précédent. Les années 1990 témoignent d'une difficulté à ce point de vue. Dès 1986, Pierre Hourmat consacre un bulletin entier à la première partie de l'histoire de Bayonne qu'il entreprend dans le prolongement de celle de Ducéré, ou du moins des œuvres de Ducéré, l'historien bayonnais du début du XXe siècle. Il réitère cette démarche en 1997 et 1998. Le bulletin, ces années-là, est composé par les deux volumes qui sont les deux volumes de son histoire de la Restauration. De même, en 1995, le bulletin annuel est constitué par l'histoire militaire de Bayonne du général Anso Borloo, qui est un des bras droits de Pierre Hourmat à cette époque. Donc, si on ajoute à ce moment-là, dans cette décennie, le bulletin 92-93, qui concerne deux années, en fait, sur une décennie, il manque quatre bulletins, véritablement. Hein, et donc, c'est le signe d'une difficulté à articuler. Alors, l'activité générale, qui est nourrie par des colloques qui font appel à des personnalités extérieures, et la production locale. Hein. C'est l'implication toute particulière de Pierre Hourmat qui permet de masquer en partie cela. Dans les années 1970, le volume des articles qu'il propose représente 6,5% du volume total du bulletin. Dans les années 90, ça dépasse les 25%. Hein, donc, c'est lui qui contribue à alimenter le bulletin et à masquer ce problème. Ce qui fait qu'après l'an 2000, quand Josette Ponté prend la direction de la CCLA, il faut à la fois se montrer fidèle au passé et en même temps adapter. Donc, pour cela, on peut, pour cette adaptation, on peut qualifier par trois éléments. D'une part, un lien renouvelé avec le monde universitaire dont la présidente est issue. Deuxièmement, une transposition accentuée des exigences de l'histoire scientifique dans les contributions des auteurs locaux. Et troisièmement, une participation renforcée à la vie culturelle de Bayonne par l'organisation de conférences mensuelles, par l'organisation fréquente de colloques ou de rencontres qui ne donnent pas lieu forcément à des bulletins, mais qui donnent lieu à des ouvrages, qui sont des ouvrages donc à côté du bulletin, mais qui illustrent cette activité de la SSLA. C'est bon. Donc, si je regarde, si je fais un petit tour, à travers ces ouvrages, trois figures se dégagent. Quand Bayonne rencontre l'histoire avec un grand H, on a affaire à des colloques qui sont des colloques fort importants. Napoléon, Bayonne et l'Espagne. Bayonne, berceau du jansénisme, pour en prendre guerre et paix, hein, les enjeux de la frontière, pour prendre trois exemples. Dans ce cas-là, les auteurs universitaires sont largement majoritaires. Les auteurs issus de la ICCLA représentent 10 à 15% des contributions. Quand l'échelle devient une échelle régionale, soit que Bayonne accueille le congrès annuel de la Fédération historique du Sud-Ouest, soit que Bayonne organise des rencontres à propos d'événements qui sont des événements, à propos sur des thèmes qui sont corrélés à la chronologie générale. À ce moment-là, la SSLA représente, du moins les auteurs de la SSLA, représentent 45 à 50% des contributeurs. Enfin, quand un sujet est quasiment local, la rédaction, les contributions sont exclusivement des contributions, des actions, des auteurs qui sont des auteurs de la SSLA. Ce qui fait que, pour conclure, au terme donc de ce demi-siècle et des changements qu'on peut y observer, on peut définir une triple finalité pour une société savante comme la nôtre. Premièrement, œuvrer au cœur du monde culturel local, en éclairant la société sur divers aspects de son passé ou de ses réalités diverses, en proposant des événements, des publications, qui contribuent donc à animer le calendrier culturel de la cité. Deuxième élément, le faire en connexion avec le monde universitaire, tutelle indispensable afin de garantir le contenu scientifique de l'information fournie et ancrage encore plus nécessaire dans une ville comme Bayonne qui ne dispose pas d'un appareil universitaire complet. Enfin, troisième élément, offrir un espace d'expression à deux catégories d'auteurs. Les chercheurs locaux, dont le produit des investigations doit être divulgué dans des publications dont le sérieux garantit la valeur, et des observateurs de la réalité locale, présente, passée, qu'un projet est susceptible d'impliquer dans une réalisation collective, les incitant à passer de l'attente à la réalisation. Voilà, parvenu au terme de 150 années d'existence, la SSLA semble en mesure de marcher allègrement vers son deuxième centenaire, pour peu que les conditions matérielles dans lesquelles elle évolue actuellement soient stabilisées au profit de toutes et de tous.
Les horizons de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne entre 1973 et 2023, vous venez d'entendre l'intervention de Michel Faure, ancien professeur, membre de la SSLA, et la semaine prochaine, poursuite de cette retransmission sur notre antenne, même jour, même heure. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdie, www.lapourdie.net.